Vous écoutez
RMC.
Maître Mathias Darmon, bonjour. Vous êtes l'avocat de l'association Innocence en danger. La procureure de la République a confirmé hier que Jérôme B., le principal suspect dans cette affaire, était en réalité visé par 4 plaintes et procédures, dont plusieurs pour viol, l'un sur une fillette de 10 ans. Comment expliquer qu'il n'ait jamais été inquiété ?
Bon, pour moi, il y a une double problématique. C'est on a une plainte qui a été déposée en 2022 par une jeune fille qui était née en 2013, donc elle avait 9 ans. Au moment où elle dépose plainte pour des faits de viol. Cette plainte est classée sans suite, 2 ans après. Pour moi, ce premier point, déjà, c'est une tragédie. Qu'est-ce qu'on va dire à cette petite de 9 ans, en 2024? On va lui dire, écoute, la justice a considéré finalement que c'était pas si grave, que c'était pas très important, alors elle a classé sans suite ton dossier. On ne te croit pas.
Ensuite, les faits n'étaient pas suffisamment
caractérisés.
Voilà l'expression.
Je suppose que c'est un classement 21, comme on appelle ça, c'est-à-dire il y a un manque d'éléments dans le dossier. Mais bon, encore faudrait-il les chercher. Ensuite, on a cette plainte d'août 2025 qui a été déposée et qui met un temps fou avant d'être traitée par la gendarmerie.
Il se perd dans les méandres de l'administration 9 mois avant en réalité d'être ressorti. Parce qu'il y en a.
Et ça c'est une seconde problématique, c'est le temps. Combien de temps ça met pour traiter une plainte pour viol sur mineur? Et c'est indécent de se dire qu'aujourd'hui, ça met plusieurs mois avant d'entendre le mise en cause, alors qu'on a une petite de 10 ans, 11 ans, qui vient dénoncer des faits de viol. Et c'est absolument tragique de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va dire à cette petite fille, que ça va durer des mois, que ça va durer des années, qu'on n'entendra pas de mise en cause? C'est révoltant.
C'est révoltant, avec une question aussi qui est évidemment le dysfonctionnement majeur de la procédure, de la justice, de signalement qui en réalité ne signale rien à personne et qui se perdent dans les méandres. Lorsque cette plainte est déposée en 2025, en août 2025, comment est-ce possible que ça n'allume pas une sorte de warning immédiat parce que on corrobore, qu'on retrouve, qu'on voit que le nom est déjà celui d'une plainte pour des faits de même nature, classés sans suite 2022, de signalement dans des établissements scolaires où il a fini par être renvoyé pour des comportements jugés inappropriés avec une jeune fille. Comment est-ce possible que ces signalements soient en quelque sorte les uns parallèles aux autres sans que personne à un moment ne les croise?
Ça s'accumule jusqu'à un point de non-retour. Je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un fichier, par exemple, central, qui permettrait de recenser tous les signalements sur le TASH, par exemple, donc le traitement des antécédents judiciaires, sur les classements sans suite, sur des plaintes qui auraient été déposées? C'est une accumulation qui formerait en fait une sorte de faisceau d'indices qui laisserait penser, bon, que la personne qui est mise en cause aurait effectivement commis les faits qu'on lui reproche. Et donc, là, il y a une vraie problématique de centralisation des données et il faudrait que les policiers, lorsqu'ils reçoivent une plainte sur une personne, soient informés automatiquement du passé de ce monsieur.
Avec cette question, évidemment, qui est que l'urgence est plus importante encore quand il s'agit de fillettes de 10 ans et que l'on sait que l'homme en question est lui-même père de 2 fillettes à peu près du même âge, ne serait-ce que pour s'interroger et protéger aussi celle-là. Je voudrais que vous écoutiez les mots du ministre de l'Intérieur. Il a été interrogé hier à l'Assemblée nationale, Laurent Nunez, et il a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. Écoutez.
J'en ai parlé avec le garde des Sceaux et nous avons décidé sur cette question de diligenter une enquête administrative qui sera confiée à l'inspection générale de la justice, à l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour identifier évidemment d'éventuels dysfonctionnements.
Comment vous réagissez? En fait,
le problème, c'est que les dysfonctionnements sont la norme. C'est-à-dire que j'ai des dizaines de dossiers où la petite fille ou le petit garçon vient déposer plainte et on attend des mois ou des années avant qu'on ait un juge d'instruction, avant que le mis en cause soit placé en garde à vue. Et c'est absolument indécent de se dire qu'on attend peut-être... Moi, j'ai des dossiers où j'ai un juge d'instruction qui est saisi au bout de 5 ans. Comment c'est possible aujourd'hui en France qu'on ait une plaignante mineure qui vienne au commissariat, qui prend son courage, qui prend toutes ses forces pour aller évoquer des faits absolument immondes et on a une justice au ralenti qui prend jamais en considération la souffrance des victimes, et on est dans une forme de victimisation secondaire. C'est des plaignantes ou des plaignants qui souffrent année après année parce qu'on a un silence de la justice, que ça soit du parquet ou que ça soit des juges d'instruction, et c'est inaudible. Alors que pourtant, c'est des faits absolument dramatiques qui sont signalés.
Vous dites jusqu'à ce que l'irréparable soit commis, parce que évidemment, la question qui se pose et qu'on a tous en tête, c'est la disparition de Liana, toujours introuvable depuis 6 jours. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans la voiture de ce principal suspect, père de l'une de ses meilleures amies, chez qui elle avait été faire ses fameuses soirées pyjama. La maman de la petite fille qui a porté plainte en août dernier, qui a, comme vous l'avez dit, pris son courage à deux mains pour aller déposer plainte et raconter ces faits ignobles. Cette maman, elle dit, si la plainte que j'ai déposée en août avait été prise au sérieux, peut-être Liana n'aurait pas disparu.
Oui, et puis elle a rajouté qu'elle avait essayé d'obtenir des informations
depuis, elle appelait régulièrement parce qu'elle n'avait aucune nouvelle de sa plainte.
Et les gendarmes lui répondent, écoutez, vous nous saoulez, on a d'autres choses à faire. Ça démontre toute la considération qu'on apporte aux victimes, encore plus lorsqu'elles sont mineures. Il y a eu un basculement avec l'ère MeToo. Je pense qu'il faudrait un basculement maintenant sur les enfants. Enfin, il faudrait des politiques qui prennent en considération la parole des enfants, qui sont vulnérables, qui sont fragiles. Et c'est absolument inaudible, insupportable d'entendre ce type d'informations aujourd'hui.
Et vous demandez l'application d'une sorte de principe de précaution lorsqu'il s'agit de mineurs et qu'il faut les protéger. J'ai presque envie de dire principe de protection.
Oui, de protection, peu importe en fait. J'entends évidemment la présomption d'innocence, mais quand on a une petite de 9 ans, 10 ans qui vient dénoncer des faits de viol, c'est absolument immonde déjà. Et on lui dit, ah écoutez, d'abord on va faire une enquête de personnalité, d'abord on va entendre l'entourage de monsieur, on va entendre votre entourage, on va faire un examen gynéco. C'est pas possible en fait. Il faudrait, par principe, on entame une perquisition, on entame peut-être des géolocalisations, différents actes de procédure que le parquet peut ordonner pour placer au plus vite le monsieur en garde à vue.
Et on rappelle qu'il n'avait été ni interrogé, ni même approché par la justice malgré toutes ces plaintes. Merci Maître Mathias Darmon, avocat de l'association Innocence en Danger. Je vous signale également qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera Dominique Rizet, le spécialiste police-justice, pour faire le point précisément sur l'enquête. L'enquête sur la disparition de Liana et sur les dysfonctionnements majeurs donc de ces processus de justice.